Moussa Sawadogo, bonjour.
Bonjour.
Quel rôle précis les stratégies de communication jouent-elles dans la perception et la gestion des conflits armés? Comment influencent-elles l'opinion publique et les actions politiques?
La communication, elle est importante en temps de guerre parce que autant les militaires se battent sur le terrain pour conquérir des territoires ou pour détruire l'ennemi, autant il faudrait que la communication suive pour que les actions militaires soient bien comprises, bien acceptées. Et que c'est vraiment deux choses qui doivent aller de pair. Comment la communication est menée dans la lutte contre le terrorisme? À partir du moment où le Burkina Faso fonctionne à partir d'une stratégie de communication de guerre, la communication et même les médias doivent prendre cela en compte. Et que c'est ça qui justifie un peu le comportement de nos autorités vis-à-vis des médias, puisqu'ils sont dans une logique de communication de guerre qui signifie que l'information doit être utilisée comme une arme de guerre contre les terroristes. On s'est rendu compte que dans le cas du Burkina, les journalistes sont beaucoup stigmatisés. Les journalistes sont accusés souvent d'être des apatrites, ne pas accompagner assez le gouvernement. Donc ça fait que le journaliste burkinabé, de façon générale, vit dans la peur.
Au regard de tout ce que vous venez d'évoquer comme difficulté pour les journalistes burkinabés, quelles sont les pratiques de communication les plus efficaces utilisées pendant le conflit pour maintenir non seulement la cohésion sociale, mais aussi minimiser les tensions et éventuellement faciliter la résolution pacifique des guerres?
Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, la communication doit travailler de sorte à ce que les populations puissent soutenir l'effort de guerre. Parce qu'en période de guerre, si je prends le cas du Burkina Faso, on nous a demandé beaucoup d'efforts, hein. On a augmenté les taxes, le budget 2024 qui vient d'être adopté, la plus grosse part va aller dans l'armée. Il y a des choix qui sont faits, c'est-à-dire qu'on va peut-être mettre un peu en berne certains secteurs d'investissement pour vraiment donner les moyens à l'armée. Le président a parlé d'augmenter encore peut-être des taxes, etc. Donc la communication va consister d'abord à rassurer les gens, à expliquer, à montrer que l'effort consenti par les populations n'est pas vain et qu'il y a des résultats sur le terrain. Donc c'est à ce moment-là où il faudra aussi faire en sorte que tout ce qui est dit dans la communication puisse aussi se traduire dans la réalité. Parce qu'il ne faudrait pas aussi donner de l'espoir aux gens. Au bout de quelques temps, les gens se rendent compte que ce que vous nous avez dit là n'est pas totalement vrai.
Vous parliez tantôt de communication de guerre, mais aussi de communication de crise. Est-ce qu'il y a une nuance entre ces deux expressions-là? Si oui, laquelle le gouvernement a choisi pour lutter contre l'insécurité?
Oui, il y a quand même une différence. Parce que c'est vrai que dans le fond, entre la crise et la guerre, on ne peut pas dire qu'il y a une grande différence parce qu'une crise, c'est un état où l'entité en crise pourrait disparaître. Le risque de disparition. Une guerre, c'est une manifestation d'une crise. Mais maintenant, la communication comme outil d'approche et de traitement de cette crise-là va changer. Quand on est dans une crise peut-être naturelle, politique, etc. Mais quand on est dans une crise de nature sécuritaire comme ça, c'est-à-dire on est en guerre.
Dans cette communication de guerre, quel devrait être le rôle justement de la population qui est à l'écoute de tout ce qui est dit sur les plateaux télé, les émissions interactives?
Les populations doivent aussi pouvoir s'exprimer parce que quand on leur demande des efforts financiers, il faut aussi leur donner une certaine liberté pour qu'ils puissent apprécier. Parce que dans cette situation-là, le pouvoir en place aussi un devoir de redevabilité. Donc, permettre aux populations de s'exprimer. Mais en même temps, il faut que la population s'exprime dans le sens de la cohésion sociale. Nous avons un ennemi commun.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que justement cette population-là a peur de s'exprimer? Parce que quand on regarde, dès qu'une personne sort pour donner peut-être son avis sur un sujet d'actualité, automatiquement, il y a une menace derrière la personne. Aujourd'hui, ce n'est pas une réalité que la population refuse justement se prononcer sur le sujet, peut-être non pour interpeller objectivement l'autorité.
Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Aujourd'hui, regardez un peu les plateaux de télé. Vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes personnes qui tournent. Les plateaux de télé ont des difficultés pour recruter des invités, des chroniqueurs et tout, parce que les gens ont peur. Parce que justement, cette affaire d'enrôlement, vous savez, ça a été perverti. Parce que finalement, l'enrôlement qui était vu comme quelque chose de noble, quelque chose où nos militaires, s'ils ont des difficultés sur le terrain, si l'État a besoin d'aide, que chaque population, dans un acte de patriotisme, soit en donnant l'argent ou en mettant ses biens à la disposition de l'État ou en allant physiquement porter sa contribution sur le terrain. Malheureusement, la réalité telle que c'est fait, c'est plutôt perçu maintenant par la population comme un moyen de coercition, un moyen de punition. Donc du coup, j'ai l'impression que ça enlève à cet outil-là toute sa noblesse.
Moussa Sawadogo, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.